mettre en regard hein, des documents d'histoire, hein, des témoignages, hein, comme vous en recherchez aujourd'hui dans ce très beau projet, mais aussi des œuvres d'art, la culture, hein, puisque c'était d'ailleurs le thème de cette exposition, c'était non seulement de parler d'immigration, mais aussi de culture italienne. On aura l'occasion d'y revenir. Et depuis que cette exposition a fermé ses portes à Paris, puisque c'était une exposition temporaire, eh bien, des panneaux, effectivement, circulent en France, dans les différentes régions françaises, mais aussi grâce au soutien de l'Institut français en Italie, hein, et dans différentes régions d'Italie. On est très heureux qu'elle puisse être présentée ici, à Aoste, et surtout dans le cadre du projet que vous avez présenté il y a quelques instants. Cette exposition, elle est venue, qui a connu, et je vous le dis en toute modestie, mais un grand succès à Paris. Et je vous le dis avec modestie, pourquoi? Parce que c'est plutôt l'aspect, comment dire, scientifique qui m'intéresse ici. C'est que ce succès, hein, rencontré par l'exposition Ciao Italia, est en fait un marqueur, un indicateur de l'intérêt, hein, de l'intérêt pour cette mémoire liée à l'immigration italienne, une mémoire un peu oubliée, hein, ou alors idéalisée en France. Et c'est pour cela que je voudrais, pour commencer cette présentation, bien justement revenir, hein, peut-être sur un panorama assez rapide de cette histoire de l'immigration italienne en France. Une histoire qui s'inscrit bien évidemment dans une histoire plus large, qui est celle de l'émigration. Hein, vous le rappeliez à l'instant à propos des Valdôtains. Hein, il y a près de 26 millions d'Italiens, hein, qui ont quitté la péninsule en un siècle, hein, entre les années 1860-1960. Et vous voyez, hein, sur cette carte, hein, bien, qu'ils se sont répandus, hein, à travers le monde. Et la France a bien évidemment été une destination privilégiée pour des raisons géographiques, hein, tout d'abord. Et je vais y revenir parce que la France, eh bien, faisait appel aussi à cette main-d'œuvre. Et vous pouvez voir sur cette carte si, sur la période qui précède la Première Guerre mondiale, eh bien, la répartition est assez équilibrée entre l'Europe, dont la France, et les Amériques, et en particulier les États-Unis. Vous pouvez voir qu'au cours de l'entre-deux-guerres, hein, vous voyez le cercle, le gros cercle ici, eh bien, c'est la France. La France devient le principal pays d'accueil de cette émigration italienne, un peu sous la contrainte, il faut bien le dire, puisque, le savez-vous peut-être, mais en 1924, déjà, les États-Unis ferment leurs portes, hein, ferment leurs frontières, et qu'il y a donc toute une partie, hein, du flux migratoire qui se réoriente vers la France. Alors justement, destination France, pourquoi la France? Eh bien, je le disais, la France a besoin de main-d'œuvre. La France, elle a besoin de main-d'œuvre. Vous le voyez sur ce graphique, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est l'évolution des populations du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Et vous voyez que l'évolution de la population française est beaucoup moins importante que les autres populations européennes. En fait, très tôt, les Français et les Françaises, eh bien, font moins d'enfants au moment où se déclenche ce que l'on appelle la révolution industrielle. Et on fait donc appel à la main-d'œuvre étrangère, et cette main-d'œuvre étrangère, elle est en gros dans le nord de la France originaire de Belgique. Les Belges constituent la première nationalité étrangère en France jusqu'au recensement de 1901, et dans le sud de la France, ce sont plutôt des Italiens. Vous voyez ici l'évolution de la présence italienne en France. Avec, en 1931, au recensement de 1931, donc nous sommes à l'apogée, hein, il y a 800 000 Italiens qui sont recensés en France de nationalité italienne. Hein, il faut savoir qu'une loi est adoptée en 1927 favorisant l'adoption de la nationalité française. Donc les personnes, les populations d'origine italienne sont-elles plus nombreuses, plus difficiles à évaluer? Certains ils vont jusqu'à dire qu'il y aurait 1 500 000 Italiens de nationalité et d'origine italienne présents en France. Ils sont à peu près 420 000 à la veille de la Première Guerre mondiale, donc l'entre-deux-guerres, et puis un dernier rebond, hein, après la Seconde Guerre mondiale. On aura l'occasion d'y revenir. Alors ces Italiens, d'où viennent-ils, hein? Vous le voyez sur ces deux cartes, donc des cartes, hein, qui ont été présentées lors de l'exposition Ciao Italia. Nous sommes ici à ma droite, donc sur votre gauche, sur la période donc, du fin de la fin du 19e siècle. Et vous voyez, c'est très net. Ce sont des septentrionaux, ce sont des Italiens du Nord qui viennent en France. Les Italiens du Sud, eux, vont prioritairement de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici dans les années 1960, c'est-à-dire à la fin de l'histoire, quelque part, et vous voyez ce basculement, c'est-à-dire que désormais, les Italiens qui viennent en France, ce sont des méridionaux. Les Italiens du Nord ne viennent plus. Pourquoi ? Deux raisons principalement. La première, vous la connaissez bien, elle est liée à ce que l'on appelle le miracle économique, c'est-à-dire le développement économique du nord de la péninsule. Et lorsque les Italiens du Nord font le choix de l'émigration, c'est pour se rendre vers des destinations qui offrent des conditions salariales plus intéressantes que la France. Je pense en particulier à l'Allemagne, je pense à la Suisse et dans une moindre mesure à la Grande-Bretagne pour en rester au continent européen. Alors, nous, ces Italiens, où on les retrouve en France, donc toujours sur ma droite, nous sommes en 1891, deux pôles d'une certaine manière, la région parisienne et puis le sud-est de la France, et en particulier les trois départements littoraux, les Alpes-Maritimes, la région de Nice, le Var et les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire la région de Marseille. Marseille est la plus importante ville italienne d'Europe, hors d'Italie, à ce moment-là. Un cinquième de la population, un habitant sur cinq, est italien avant la Première Guerre mondiale, et principalement piémontais, même si Marseille présente cette caractéristique de recevoir très tôt des méridionaux. On les appelle d'ailleurs à Marseille des Napolitains. Ils ne viennent pas de Naples, en fait, ils viennent de l'ancien royaume de Naples. D'ailleurs, plus précisément, ils viennent plutôt du Latium et des ports de pêche. Je pense notamment à Sperlonga, que vous connaissez sans doute, très beau village, dont sont originaires de nombreux pêcheurs marseillais. Pardon, non, je reviens, je vais aller trop vite, je vais dire quand même un mot, si je peux, de l'autre carte, là. Voilà, pardon. D'un mot, et pour le dire presque de manière un peu triviale, en 1931, ils sont partout. Quasiment, à l'exception peut-être du nord-ouest de la France, sinon, vous voyez, la région alpine, la région Rhône-Alpes, l'est de la France, le nord, le sud-ouest, où ces Italiens vont jouer un rôle essentiel dans l'agriculture. Ça aussi, on pourra en dire un mot. Deux exemples parmi d'autres. Il n'y a pas eu en France, à proprement parler, de petites Italies. Mais il y a quand même ce que l'on peut appeler des pôles d'agrégation. Ces Italiens, en fait, se rassemblent. Et d'ailleurs, pour être plus précis, ils se rassemblent non pas en fonction de leur origine nationale, mais plutôt en fonction de leur origine locale, régionale, provinciale. On sait par exemple qu'à Paris, où il y a une forte communauté valdôtaine, eh bien, ils résident, notamment du côté de Levallois. Et là aussi, pourquoi ? C'est le résultat de ce qu'on appelle des filières migratoires. C'est-à-dire que je me rends ici à Nogent. Alors, je n'ai pas pris Nogent au hasard. Nogent, c'est le Nogent des Rital de Cavana. Parce qu'il y a un membre de la famille, un ami, un voisin qui est déjà installé sur place et qui va favoriser l'installation, à la fois en termes d'hébergement, mais aussi c'est cette connaissance qui va permettre souvent d'accéder à un emploi. Dans le sud de la France, la région non seulement où je travaille, mais dont je suis originaire, je travaille à Marseille, mais je suis originaire de Nice, donc comme beaucoup de Niçois, piémontais. Il y avait à Nice, un quart de la population était piémontaise au cours de l'entre-deux-guerres. Mon patronyme ne le dit pas, c'est mon patronyme paternel, mais mon patronyme maternel, c'est Via Allée. Ça donne un gage peut-être de légitimité à mon discours. Je suis aussi d'origine italienne. Eh bien, on voit ici qu'ils se regroupent par quartier en fonction de leur origine. Et en fait, dans le sud, on dit souvent « Ah !» Et vous allez sentir qu'il y a comme une tonalité particulière. Si nous avons beaucoup d'immigrés dans notre région, c'est parce qu'il fait beau comme chez eux. Ça n'a évidemment rien à voir avec la météo. C'est parce que ce qui détermine la migration, hier comme aujourd'hui, c'est le travail, bien évidemment. Alors ces Italiens, justement, je disais tout à l'heure que cette mémoire, elle a été un peu oubliée, voire idéalisée. Aujourd'hui, quand on demande à des Français, hein, et on a pu en recueillir des témoignages auprès du public de l'exposition Ciao Italia, avant qu'ils visitent l'exposition, il y a l'idée que ces Italiens, c'était, ouvrez les guillemets, de bons immigrés. Ce qui permet de dire, sans le dire, qu'il y aurait eu ensuite de mauvais immigrés. Pourquoi on considère aujourd'hui comme de bons immigrés? Ben parce qu'il y a l'idée que ces gens-là étaient effectivement de même culture, de même religion, que finalement la langue n'était pas si éloignée que ça, surtout dans le sud de la France, hein, où la proximité avec le provençal, voire avec le niçard, tout ça laissait l'idée que effectivement, eh bien, ces gens-là se sont bien intégrés. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces Italiens ne se sont pas intégrés, voire même, pour reprendre les termes de l'époque, assimilés, mais de rappeler, et l'exposition avait cette vocation, eh bien que contrairement à cette idée reçue, les Italiens, on peut le dire sans exagérer, ont été mal reçus, mal accueillis. Ces Italiens ont été rejetés par les Français. C'est même ces Italiens, hein, qui sont à l'origine de la conception que l'on se fait globalement dans l'opinion publique française de l'immigration. En France, immigration égale problème. Ce qui n'est pas une spécificité française, hein. Des pays qui étaient des pays d'émigration et qui sont devenus des pays d'immigration, si vous voyez de quel pays je veux bien parler, eh bien, considèrent aussi désormais que l'immigration est un problème. Et en fait, on peut situer, dater très précisément ce moment. C'est à Marseille, en juin 1881. Cet épisode, hein, je vous ai mis ici des extraits de la presse, un épisode qui va avoir un retentissement considérable, que l'on appelle les Vêpres marseillaises. Eh bien, en juin 1881, la France vient d'établir son protectorat sur la Tunisie. Des troupes françaises rentrent de Tunisie. Ils sont accueillis, ces troupes, elles sont accueillies sur le vieux port de Marseille avec une ferveur patriotique, des drapeaux, on chante la Marseillaise, et on entend des sifflets. Et immédiatement, la foule se tourne vers l'avenue, le bas de l'avenue qui arrive sur le vieux port de Marseille, le boulevard de la République, où se situe le Club national italien. C'est une association, rien de politique, hein, une association italienne, et qui a eu, si je puis dire, l'outrecuidance de laisser le mauvais drapeau tricolore à ses fenêtres, le drapeau italien. S'ensuit 3 jours de chasse aux Italiens dans Marseille. 3 morts, 21 blessés. Un événement que la presse locale, nationale, internationale, en Italie, hein, c'est une émotion extrêmement forte. Il y a des députés qui, à Montecitorio, demandent au gouvernement de déclarer la guerre à la France à la suite de cet épisode. Alors, il faut dire aussi que cela vient se mettre sur une sensibilité exacerbée par l'affaire tunisienne, parce que l'Italie aurait bien aimé mettre, hein, son emprise sur la Tunisie, puisque, vous le savez sans doute, la population européenne en Tunisie est majoritairement, très majoritairement italienne. Il y a 80 000 Italiens en Tunisie. Donc, et à ce moment-là, on parle dans la presse d'immigration. Hein, c'est la première fois et qu'on emploie le terme immigration égale problème égale menace. Et vous voyez bien que ici, il y a un symbole fort, c'est le drapeau. L'immigré, hein, est une menace pour la nation. Et en l'occurrence, l'italien. Les Italiens sont les plus nombreux. Je ne vous ai pas dit, mais à Marseille, à cette époque-là, 9 étrangers sur 10 sont italiens. Donc quand on est immigré, on est italien à Marseille. Donc un rejet, l'invasion. Hein, c'est le terme qui prédomine. Ces Italiens nous envahissent. L'invasion, c'est le titre d'un roman qui a eu un grand succès, publié en 1907. Et vous voyez, je vous ai mis un extrait de l'avant-propos. Louis Bertrand, hein, Louis Bertrand, c'est pas un fou, hein, il est professeur de lettres au lycée d'Aix-en-Provence. Hein. Et la grande affaire pour moi, c'était les immigrants italiens, cette plèbe arrivée à Marseille avec ses tares et ses vices. Je fus ainsi conduit à faire mon étude et à en concentrer l'intérêt sur ce que j'appelais l'invasion marseillaise, l'invasion à la fois matérielle, politique et sociale. Et ce discours de l'invasion, on va le retrouver, alors bien évidemment, dans les ligues d'extrême droite, l'envahissement. Alors vous voyez qu'on apparaître ici l'autre ressort de l'italophobie, la question de l'emploi. Hein, nous sommes en pleine crise économique. Ils volent les emplois. Les étrangers, les Italiens, puisqu'il faut les appeler par leur nom, prennent les emplois des nationaux et mettent les Français au chômage. Et je vous ai mis ici un document qui vient des archives départementales des Bouches-du-Rhône. C'est une lettre de menace envoyée par des ouvriers français. J'ai l'honneur de vous informer de faire évacuer immédiatement tous les Italiens, hélas en grand nombre, que vous occupez. Donc on s'adresse au patron. Les Italiens sont des voleurs, des assassins. Ils lèvent le pain des ouvriers français qui meurent de faim. Vive la France, mort aux Italiens. Sachez que ce type de discours n'est absolument pas exceptionnel. D'ailleurs, les rixes, les affrontements violents, sont très nombreux entre ouvriers français et ouvriers italiens. Le cas le plus connu, hein, on a pu dire que c'était le seul pogrom qu'a connu l'histoire de la France contemporaine, c'est à Aigues-Mortes, dans les Salins d'Aigues-Mortes, hein, où les ouvriers français s'en prennent aux ouvriers italiens qui sont accusés d'accepter les tâches les plus pénibles, d'accepter les salaires les plus bas. D'ailleurs, il y a une partie de la population qui, en France, n'a jamais été xénophobe, ce sont les patrons, hein, puisque cette main-d'œuvre étrangère représente, bien évidemment, un profit. Hein, et d'ailleurs, en France, la politique migratoire est largement laissée aux mains des patrons jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On pourra y revenir si vous voulez. Là aussi, hein, c'est un événement considérable. Selon le bilan officiel, 8 morts, 50 blessés. La presse, et notamment la presse internationale, évoquera jusqu'à 50 morts. Et ce qui a beaucoup marqué l'opinion publique, et notamment en Italie, c'est que les coupables sont appréhendés. Ils sont jugés. Et ils sont tous relaxés. Ça en dit long sur la valeur que l'on accorde, justement, à la vie de ces Italiens. Des Italiens, d'ailleurs, cet épisode, on disait qu'à l'époque, qu'on chassait l'ours. Vous voyez bien, donc l'Italien, c'est un animal, une bête, et c'est un prédateur. Encore une fois, il y a quelque chose de la menace. Mais dans le même temps, je voudrais quand même atténuer ce propos, il y a ce rejet, mais il y a aussi une solidarité entre les ouvriers français et les ouvriers italiens. Vous voyez là toujours un exemple pris dans la région marseillaise qui rappelle ce document, qui est un rapport d'un commissaire de police en 1883, qui rappelle que, au moment d'une grève, les ouvriers français et les ouvriers italiens font cause commune au nom de l'internationalisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça a aussi fonctionné et ça a participé, évidemment, à l'intégration de ces Italiens. Mais les stéréotypes, les préjugés ont la peau dure. Et notamment, il y en a un qui va beaucoup marquer les esprits, notamment à la suite de l'assassinat du président de la République française par un Italien, un anarchiste italien. Et lors de l'exposition Ciao Italia à Paris, nous avions présenté le couteau qu'a conservé la préfecture de police, le couteau de Caserio, qui est effectivement celui qui a donné la mort au président Sadi Carnot, et se répand dans l'opinion l'idée que ces gens-là sont intrinsèquement violents. Et quand je vous dis dans l'opinion, ce n'est pas simplement parmi les petites gens. Lisez avec moi ce que dit le procureur de la République à Nice lors d'un procès qui concerne un Italien. Peut-être l'inculpé a-t-il, comme les Italiens font d'ordinaire, frappé lâchement par derrière. Les Italiens ont un coup préféré. Quand ils ne frappent pas au cœur, ils visent le cou. Ils connaissent l'anatomie du corps humain et ils savent quelles sont les parties que l'on frappe à coup sûr. Des collègues ont montré qu'à cette époque-là, les Italiens sont plus souvent déférés devant les tribunaux que les Français et qu'ils sont plus lourdement condamnés que les Français. Des collègues sociologues font le même constat aujourd'hui pour d'autres populations. Ces Italiens, on le disait, ce sont des macaronis. Dans le sud, à Marseille, on dit qu'ils sont des babis. Babi, ça vient du provençal crapaud. Donc là aussi, vous voyez, ça en dit long sur l'intérêt qu'on leur porte. Et parmi les stéréotypes que l'on a aujourd'hui, il y a l'idée que, je vous l'ai dit, ces gens-là avaient la même religion que nous. Donc, c'était des gens tout à fait assimilables. Je vous ai mis ces documents pour vous rappeler qu'on les appelait aussi des cristaux. Parce qu'en fait, ces Italiens qui aimaient pratiquer des processions, Eh bien, en France, et notamment dans les grandes villes, on ne fait plus de procession à cette époque-là. Et donc, leur pratique religieuse est un élément de stigmatisation. Albert Londres, le grand reporter Albert Londres, vient à Marseille en 1927. C'est dimanche et les églises n'ont pas été édifiées pour les chiens. Entrons dans celle-ci, il n'y a pas de chaise, les chrétiens sont debout, comme en Italie. Ce ne serait rien, mais le prêtre monte en chaire. Et que fait-il ? Il prêche en italien. C'est à se coiffer en pleine chapelle et à commettre un péché mortel. Albert Londres, qui n'est pas un xénophobe, mais vous voyez, il exprime ici sa stupéfaction au regard de la manière de pratiquer qu'ont ces Italiens. Alors ces Italiens, ils sont venus travailler, bien évidemment, je vais passer assez vite, hein, c'est des choses que vous retrouvez dans l'exposition. On les retrouve, alors ce graphique, vous le retrouvez, l'industrie, hein, ce sont des ouvriers, hein, c'était le titre de mon intervention, qui était d'ailleurs le terme qu'avait repris la communication de l'exposition Ciao Italia, ces Italiens qui ont fait la France. Oui, ils ont construit la France. Ils ont produit, ils ont fait, on va le voir ici, hein, dans les champs, hein, et je vous ai mis volontairement une famille valdotaine, hein, non loin d'ici, en Savoie. Hein, je évoquais tout à l'heure le sud-ouest. Les Français ont déserté les campagnes. Hein, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Or, ce sont les Italiens qui ont maintenu à flot l'agriculture. Si vous avez déjà traversé le sud-ouest de la France, vous avez sans doute vu ces grands champs de maïs. Eh bien, on peut dire que s'il n'y avait pas eu d'Italiens, il n'y aurait pas eu ces grands champs de maïs dans le sud-ouest. Ils ont fait la France, ils ont construit nos routes, nos ponts, nos voies de chemin de fer, nos barrages, etc., etc. Vous voyez ici, c'est cette belle photographie de la construction du canal de Marseille, ce qui permet au passage d'attirer votre attention sur la manière dont travaillent les historiens, parce qu'évidemment, vous le voyez, aucun d'entre eux ne porte son drapeau. Bon. Mais en revanche, si on met en face ce document de la même époque, les Italiens sont les seuls ouvriers étrangers qu'on utilise, donc il est fort probable moitié d'ouvriers italiens. Il est probable que la moitié des personnes qui sont sur cette photographie soient des Italiens. Il ne veut plus ? Voilà, on va passer par ici. On évoquait tout à l'heure. Alors ça fait partie des stéréotypes. L'Italien, c'est le maçon. Et je vous ai mis, justement, pour enfoncer le clou du stéréotype, alors Cavana, l'Hérital, l'avenir, c'est pas un problème. Ils seront maçons. Cavana, qui, dans l'Hérital, raconte son enfance à nos gens. Mais regardez plus récemment, là, ce sont des guides. Alors, tenez, on va aller directement, le guide Michelin. Guide Michelin, 1959. Les Italiens sont maçons dans l'âme. Il suffit de voyager en Italie. Regardez ces témoignages de l'Antiquité. Regardez ces témoignages de la Renaissance. Ils ont ça dans la peau, c'est dans leur culture. Voilà le genre d'idées que l'on développe à l'époque. Dans les usines, bien sûr, et ce texte rappelle, l'Italien en général peut être considéré comme le paria de la classe ouvrière. Il arrive en émigrant, le plus souvent sans un sou vaillant, rarement pourvu des premiers rudiments de l'instruction primaire. Il ne connaît aucun métier, il ne peut guère prétendre qu'au rôle de manœuvre. Il accepte toute occupation qui s'offre à lui. Encore une fois, les tâches les plus pénibles, les moins bien rémunérées, dans les usines, dans les mines également, ce sont des tâches qui sont pour les Italiens. On les retrouve dans le commerce, avec des spécialités. Les chapeliers, dans les grandes villes françaises, les chapeliers sont italiens. Les cordonniers sont italiens. Les tailleurs sont italiens. D'ailleurs, ça participe du stéréotype normal. Ces Italiens sont des gens élégants. C'est ce qui fait partie des préjugés. On les retrouve dans la restauration, et ça, c'est intéressant, parce que ces commerces, cette alimentation ou ces cafés-restaurants, au départ, ils sont destinés aux Italiens. Et en fait, progressivement, eh bien, ce sont ces commerçants qui vont diffuser la gastronomie italienne. La pizza, la pasta, etc., etc. On le doit, évidemment, à ces émigrés. On voit ici, d'ailleurs, les pâtes Scaramelli, des affiches que nous avions présentées parce que ces affiches qui vantent en France des produits italiens, eh bien, elles sont, on les doit à un Italien. Capiello, merci, Béatrice. Le nom est en train de m'échapper. Capiello, qui est un affichiste, artiste extraordinaire, qui mériterait d'ailleurs en soi une exposition. On les retrouve dans les métiers du service, et vous le savez, ici, à Ost, les cochers valdôtains, les chauffeurs de taxi, on les retrouve comme domestiques, notamment les nourrices piémontaises, très chic. Dans la bourgeoisie, on se devait d'avoir une nourrice piémontaise ou une cuisinière italienne. Là aussi, toujours Albert Londres, je sonnais, la femme de chambre, elle arriva, c'était une Italienne. Envoyez-moi le valet, c'était un Italien. Faites-moi monter le sommelier, il était Italien. Je sortais de ma chambre, j'appelais l'ascenseur, le garçon de l'ascenseur, il lisait, il s'école. Ce n'est pas caricatural, effectivement, ces professions étaient très largement italianisées. Alors je vais passer très vite, quelques réussites entrepreneuriales. Dans le secteur du bâtiment, je vous ai mis une entreprise parmi d'autres qui m'est chère, puisque c'est une entreprise niçoise, l'entreprise Spada, qui est au départ, c'est un manœuvre, Giovanni Spada, Jean Spada, qui va monter sa petite entreprise familiale, ça c'était vraiment le modèle d'ascension sociale, et qui va devenir une grande entreprise, c'est notamment l'entreprise de Spada qui a construit l'aéroport de Nice, deuxième aéroport en France aujourd'hui encore. Ponticelli, avec qui nous avions accordé une place importante, connu en France pour être le dernier des poilus, on pourra en reparler, mais on sait moins que Lazare Ponticelli et ses deux frères, eh bien, sont à l'origine, eh bien, là aussi, petite fumisterie, et qui est devenue aujourd'hui un des grands groupes sur de l'industrie pétrolière, enfin d'équipement du secteur pétrolier dans le monde. Je ne vous présente pas Bugatti, des immigrés italiens installés en Alsace. Simca, on le sait moins, ça en France. Henri Pigozzi, qui est un ancien de la Fiat, d'ailleurs, venu s'installer en France. Gordini, peut-être pour ceux qui suivent l'actualité ou l'histoire des rallyes automobiles, la fameuse Renault Gordini, un immigré italien. Si vous fréquentez la France, vous connaissez sans doute les boulangeries Banette, eh bien les boulangeries Banette, c'est la famille Storione, une famille d'Italiens installée, vous le voyez ici, à Marseille. Voici quelques exemples de réussite. J'aurais pu évidemment en présenter d'autres. Je voudrais attirer votre attention sur un point, qui est un point d'ailleurs qui intéresse mes propres recherches, c'est la question effectivement de l'italianité. Vous savez que les étrangers en France sont soumis à une injonction qui est l'intégration, voire l'assimilation. Et qu'il y a dans l'idée, aujourd'hui encore, que les liens conservés avec le pays d'origine seraient un frein, un obstacle à cette intégration. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'en est rien. Et je me semble que le cas italien, le cas de l'immigration italienne est de ce point de vue-là tout à fait intéressant. On peut tout à fait s'intégrer, et je crois qu'on ne peut pas dire le contraire des Italiens, tout en gardant justement quelque chose de l'Italie. En France, d'ailleurs, on a du mal, parce que l'italianita, que l'on traduit par l'italianité, nous n'avons pas l'équivalent. La francité, ça ne se dit pas. Donc on a du mal à cerner ce que peut être cet attachement, finalement, aux origines. Et cet attachement, il se traduit de différentes manières. La religion, bien évidemment. Vous savez que les missionnaires qui accompagnaient les migrants italiens, ils avaient une double vocation. La première, évidente, spirituel, d'encadrer leurs ouailles, mais ils avaient aussi pour vocation de maintenir, ou d'ailleurs plus exactement, de faire découvrir à ces migrants. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'Italiens. Mais il faut savoir que pendant longtemps, ces immigrés, en fait, ne se considéraient pas comme Italiens. Ils étaient valdôtains, ils étaient piémontais, ils étaient lombards. Ils étaient vénitiens, quoi. Et c'est intéressant ici, c'est qu'on a affaire à une population qui a découvert son origine nationale en migration. À la fois parce que vous l'avez vu, les Français les pointaient du doigt. Vous êtes des macaronis, vous êtes des ritals ensuite. C'est-à-dire, on globalisait. Et effectivement, l'action menée par différents acteurs, l'Église, l'État italien, pour justement leur rappeler ou leur faire découvrir, et notamment il y avait tout un travail qui était fait sur la langue, parce que ces gens-là ne parlaient pas l'italien. Ils parlaient le dialecte de leur région, bien évidemment. là aussi, assez rapidement, des structures, notamment les sociétés de secours mutuels, avant que la sécurité sociale n'existe. C'était des associations qui visaient à garantir justement la sécurité des travailleurs. Donc vous voyez ici la société de secours mutuel italienne de Lyon. Ici une très belle affiche que l'on doit à Capiello encore pour la société italienne de bienfaisance de Paris. On se rassemble aussi dans des associations récréatives. Et notamment, et c'est vrai que ça joue un peu le stéréotype, parce qu'en France, on considère que les Italiens, ce sont des artistes. Et notamment, la figure la plus répandue de l'Italien, c'est le joueur de mandoline. Ce que j'imagine ici, au Val d'Aoste, ça dit pas grand-chose, quoi. Mais on ramène tous les Italiens à la mandoline, c'est-à-dire aux Napolitains. Mais il est vrai que les associations d'Italiens en France sont souvent des associations musicales, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le sport, évidemment, on ne pouvait pas ici faire autrement que de rendre hommage, et vous le retrouverez dans l'exposition, à Maurice Garin. Maurice Garin, d'ailleurs, dont les Français ont oublié qu'il était italien. Certes, quand il remporte le premier Tour de France en 1903, il est naturalisé depuis 1901, mais il est valdôtain. Alors évidemment, son patronyme français, on en parlait tout à l'heure, on pourra peut-être y revenir dans la discussion. C'est vrai que les valdôtains sont devenus plus rapidement encore invisibles. Et ils ont peut-être même cherché assez rapidement, au regard justement de l'accueil ou du mauvais accueil qui était réservé aux Italiens, les valdôtains pouvaient peut-être tirer profit justement de leur patronymie et de leur langue française. Alfredo Binda, grand cycliste de l'entre-deux-guerres, plusieurs fois champion du monde, qui est un immigré italien à Nice, et vous le voyez ici sur ce journal, il y avait au cours de l'entre-deux-guerres une compétition en France réservée aux cyclistes italiens, à des immigrés italiens qui avaient leur licence à la fédération italienne, et chaque année se tenait le Critérium cycliste des Italiens de France. La Dante Alighieri, qui joue aussi un rôle important, je ne vous la présente pas, vous voyez ici Marinetti à Nice, la presse italienne. Extrême. La presse italienne en italien, faite par des Italiens de France pour des Italiens. Juste pour vous donner un exemple du foisonnement de cette presse, j'ai pris Nice, regardez le nombre de journaux, rien qu'à Nice, et je vous ai mis ici en plus gros le grand journal de l'immigration italienne en France, Il Corriere, qui est un journal catholique, qui est au départ le journal de la mission catholique d'Agen, et qui va se répandre dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. Et chaque année, il y avait ce calendrier, et vous voyez cette double, la croix, le drapeau. On retrouve cette double dimension ici. Je vais passer très vite parce qu'on y reviendra dans la discussion. On le disait tout à l'heure, parce que je voudrais quand même laisser que Beatrice puisse s'exprimer. C'est important de dire que la plupart des Italiens de France se sont maintenus dans une stricte neutralité politique. Ils n'ont pas fait de politique. Pour une seule et simple raison, c'est que du point de vue des autorités françaises et de l'opinion publique française, ce n'était pas bien vu. Et que ça pouvait même être un facteur aggravant en termes d'expulsion. Et pourtant, tous les Italiens ont été pris par le jeu politique. Par le jeu politique italien. On a vu tout à l'heure Caserio, les anarchistes. Et bien évidemment, à partir de 1922, c'est l'ombre du fascisme, pour reprendre le terme que nous avons employé dans Ciao Italia, qui plane sur l'ensemble de la communauté italienne. « Tu sei italiano, devi restare italiano ». C'était le slogan de la propagande du régime fasciste. Je vous ai mis ici, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, les 10 commandements de l'Italien à l'étranger. « La patria è una sola, la tua patria è l'Italia, nessun altro paese deve essere da te amato come l'Italia ». Et tout état de ce type-là, faut pas se marier avec une Française, etc., etc. Quoi. La grande crainte du régime fasciste, c'est en France, c'est justement la naturalisation. Et je vous l'ai dit, en 1927, il y a une loi qui favorise cette naturalisation. Très peu de ces Italiens ont été fascistes. Un exemple, Marseille. À Marseille, il y a 100 000 Italiens. Moi, je travaille sur cette question au maximum. Et encore, c'est pas sûr. Il y a peut-être eu 1 000 fasciste, avec la carte, la tessera, avec la chemise noire. Et pourtant, à Marseille, comme ailleurs en France et dans le monde, les fascistes, en fait, ont eu cette idée génial quelque part, de créer des cases d'Italia, les cases dell'Italiani, hein, où il y avait le consulat, il y avait le FAHCHO et toutes les organisations, mais aussi toutes les associations qui avaient une vocation sociale et culturelle. Ce qui fait que ces cases d'Italia étaient beaucoup fréquentées, beaucoup plus que par, enfin pas seulement par ceux qui avaient la carte et qui portaient la chemise noire. Ce qui, dans l'opinion publique, effectivement, a eu pour effet, notamment lorsqu'on est un Français de gauche, eh bien, derrière chaque Italien, il y a peut-être un dangereux fasciste. Mais quand on est, alors vous voyez ici le Dopo Lavoro hein, de Nice, ici, hein, donc toutes les activités sportives, la jeunesse, évidemment. Et ce qui marchait très bien, c'était les colonies de vacances estivées. Hein. Là aussi, et il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas fascistes, hein, mais qui envoyaient leurs enfants dans les colonies. Et vous savez que comment ça se passait, hein, où on portait les enfants, portaient la chemise noire, etc. C'était une manière de manifester son attachement au pays. Vous savez, quand Mussolini fait cette campagne pour récolter les anneaux de mariage en 1935, au moment de la campagne d'Éthiopie, en Italie, hein, mais aussi à l'étranger. Un succès fou. Ce sont des kilos, des dizaines et des dizaines de kilos d'or qui sont récoltés hein, dans toutes les villes françaises. C'est l'attachement ici hein, qui se manifeste, non pas au régime fasciste, mais c'est l'attachement au pays d'origine. Quand on est un Français de droite, derrière chaque Italien, un antifasciste, un communiste, un anarchiste, hein, que sais-je encore. Et effectivement, la France a accueilli un grand nombre d'antifascistes, hein, et parmi lesquels des personnalités de premier plan. Et il faut le dire, et c'est comme ça que nous l'avions présenté dans Ciao Italia, ces antifascistes ont joué un rôle essentiel dans la formation de la culture politique de la gauche française, qui a fait d'ailleurs de l'antifascisme un combat, et on le doit notamment à l'apport de ces Italiens. Vous voyez ici, hein, ça vient donc des documents d'archives qui viennent des archives de Nice, des tracts, hein, des tracts qui étaient distribués par les antifascistes parmi les Italiens immigrés. Ce qui posait problème, surtout pour les autorités françaises et les Français, c'est que les antifascistes, et notamment les plus radicaux, les communistes et les anarchistes, eh bien, ils cherchaient à faire le coup de poing, à se battre contre eux. La Casa d'Italia à Marseille est plastiquée, est victime d'un attentat. Et ça, évidemment, c'est inacceptable parce que cela vient troubler l'ordre public. Un mot quand même sur, puisqu'on parle d'apport, la résistance. Hein, et ici, vous connaissez sans doute Raymond Perinetti, hein, qui est un valdotin, hein, qui émigre à Grenoble à la fin des années 20, qui va être engagé politiquement à la CGTU, le syndicat, au Parti communiste italien. Et vous le voyez ici dans son uniforme, c'est lui qui fonde la section des FTP, les résistants communistes, hein, dans le département de l'Isère, et il deviendra maire de Grenoble hein, en 1948 pour quelques mois, hein, un exemple parmi d'autres hein, de ces Italiens qui ont libéré la France. Après 1945, la dernière vague, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, vous voyez avec cet appel qui est lancé hein, aux mineurs italiens, à ce moment-là, les autorités françaises cherchent à organiser le flux migratoire. Et c'est la création de l'Office national de l'immigration. Vous voyez ce panneau ici. Parce qu'en fait, et ça aussi on l'oublie en France, la plupart des migrants italiens venus en France sont venus clandestinement. Et notamment les Valdotins en 1945, qui sont d'ailleurs très bien accueillis, eux. Hein. Et en fait, pour tout vous dire, alors il y a même, vous voyez, une sorte de camp à Menton hein, pour les accueillir. Mais les procédures avec, vous allez le voir ici, donc l'accord de 1951, en fait, il y avait tout un système de sélection qui était organisé à Milan, à la caserne Garibaldi. En fait, rapidement, le principe, c'était de faire correspondre l'offre et la demande. Les patrons français, hein, comme une sorte de pôle emploi, disaient, voilà, nous, on a besoin de tel type de profil, et on sélectionnait en fonction. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En fait, l'essentiel du travail de l'Office national de l'immigration a été de régulariser les clandestins italiens venus en France. Et parfois même, leur régularisation, elle se faisait à la frontière. De l'autre côté de la frontière, à peine étaient-ils arrivés à la gare de Modane ou à Menton qu'ils étaient régularisés. Les temps ont bien changé de ce point de vue-là. Et je voudrais terminer par deux ou trois images. Je vous ai dit tout à l'heure que ces Italiens étaient la première nationalité étrangère représentée jusqu'au recensement de 1968. Or, à partir de 1960, ces Italiens disparaissent du paysage. On ne les voit plus. On n'en parle plus. Pourquoi ? Une nouvelle invasion. Ce ne sont plus les Italiens, désormais, mais ce sont des étrangers dont on considère qu'ils sont plus différents encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le même reproche à ces étrangers que ceux que l'on faisait aux Italiens auparavant. Et à ce moment-là, l'Italie, voilà ce que ça devient. L'Italie, la Dolce Vita, le tourisme, d'ailleurs le flux migratoire s'est inversé, désormais ce sont les Français, alors évidemment temporairement, c'est une installation que nous avions présentée à Ciao Italia. Ce n'est pas un artiste italien, d'ailleurs, c'est un artiste égyptien. Et nous avions d'ailleurs mis, on pourrait vous en montrer des images, cette installation au milieu, à côté d'un buste du Duce. Il y avait également, vous connaissez sans doute ce grand tableau, on le retrouve, l'Immigranti. C'était la première fois d'ailleurs qu'il sortait d'Italie. Parce que justement, on voulait jouer de ces différents symboles et de ce regard, de cette italianité qui s'est diffusée. On le voit au travers de ce nuage de mots dans la culture française, de différentes manières, et notamment dans la langue française, puisque, vous voyez, tous ces termes sont des termes italiens qui sont aujourd'hui intégrés au vocabulaire français, et puis quelques parmi d'autres, qui appartiennent au panthéon de la culture populaire française, Montand, Livi, Serge Reggiani, c'est moi, c'est l'italien, célèbre chanson, Lino Ventura, qui lui d'ailleurs restera italien toute sa vie, font partie de ces grandes figures, de ces Italiens qui ont fait la France. Et je termine par une forme de publicité, si vous voulez aller un peu plus loin. S'il est encore disponible, c'était le catalogue, le livre qui rassemble des contributions parmi les meilleurs spécialistes, parmi les historiens français et italiens, sur ce siècle d'immigration et de culture italienne en France. Je vous remercie.
Bien, merci pour cet aperçu général, mais très précis dans l'histoire des relations entre France et Italie, vu au point de vue de l'immigration.